Philippe Meyer, bonsoir.
Bonsoir Pierre Grandis.
Philippe Meyer, vous êtes le président du Bnei Brith France et avec vous, comme on le fait régulièrement sur l'antenne de Radio Shalom, nous allons revenir sur plusieurs sujets d'actualité. On va commencer par cette enquête qui a été ouverte pour contestation de crimes contre l'humanité à l'encontre du président de l'association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain à la suite d'une messe qui a eu lieu samedi dernier à Verdun. La plainte vise notamment le président de cette association, Jacques Boncopain, qui s'était exprimé à la sortie de l'église, estimant que Philippe Pétain avait été le premier résistant de France. Elle vise aussi le prêtre qui a célébré la messe. C'est en tout cas ce qu'a indiqué la procureure de la République de Verdun.
Oui, tout à fait. Et cette plainte dont vous parlez, Pierre, est évidemment la bienvenue. Elle est légitime, naturelle et salutaire. On doit aussi saluer les contestations qui avaient eu lieu de la part du maire, de la part du préfet à l'époque. Donc vraiment, la République avait dit non à cette messe qui a été une véritable honte. C'est un moment de honte. Cette messe qui a eu lieu donc dans la Meuse avec certes peu de personnes, une vingtaine de participants, il y avait cinq fois plus de manifestants dehors, mais ce n'est pas le nombre de participants qui compte évidemment, c'est le symbole, c'est un symbole terrible où quelque part les organisateurs de cette sinistre messe ont réhabilité Pétain, ils l'ont réhabilité même au travers d'une messe. Et réhabiliter Pétain, c'est évidemment, cela revient à réviser notre histoire, l'histoire de notre pays. Ça revient à souiller les valeurs qui sont les nôtres, notre socle commun républicain. Et bien sûr, ça revient à insulter la mémoire des victimes de Vichy, des victimes de l'État français, des victimes de Pétain, des 76 000 juifs de France qui ont été envoyés à la mort par les nazis et les complices de l'État français. Vous savez, s'il y a une seule empreinte à garder, à conserver de Pétain dans l'histoire, cette empreinte, elle est gravée sur le statut des juifs. Cette empreinte, elle est gravée sur la rafle du Veldiv, qui avait été décidée par l'État français, par Vichy, par Pétain, et organisée par la police française, et bien sûr cette empreinte sur la politique collaborationniste de Pétain avec les nazis. C'est la seule empreinte qui compte. C'est sa forfaiture, c'est sa trahison, et du fait de cette empreinte, cet homme, ne le qualifions pas autrement, cet homme ne mérite strictement rien d'autre que la honte et les déshonneurs. C'est la seule chose à retenir de cet homme. Ce n'est pas une messe en son hommage. C'est la honte et les déshonneurs. Vous savez, pendant cette période noire de notre histoire, entre début des années 40, entre 40 et 44, la vraie grandeur de la France, l'honneur de la France, c'était incarné par les résistants, par les justes qui ont sauvé des juifs. Ça, c'était la grandeur de la France. Ce n'était pas Pétain et ses sinistres complices qui, eux, ont trahi le pays, qui ont trahi la patrie, qui ont trahi la France. Ça, nous ne l'oublierons jamais, nous ne le pardonnerons jamais. Ces organisateurs de cette messe ont pu penser que la mémoire se négocie, mais non, la mémoire ne se négocie pas. Célébrer cette messe, comme cela a été fait il y a quelques jours, c'est bien sûr faire l'apologie de la politique de collaboration, c'est faire l'apologie de toutes les horreurs qui ont eu lieu pendant ces années noires, c'est réhabiliter un traître, évidemment il n'en est pas question. Espérons que cette plainte aille au bout, espérons que les mesures des condamnations soient prises contre les organisateurs de cette messe. Il n'y a aucune négociation possible. Je répète, la mémoire ne se négocie pas.
Alors, ni oubli, ni pardon. Il y a quelques jours, c'était les 10 ans des attentats du 13 novembre qui ont eu lieu 10 mois après les attentats contre Charlie Hebdo, Montrouge et l'Hypercacher. La France était de nouveau touchée, cette fois par des attentats suicides les plus meurtriers qu'elle ait jamais connus. À Saint-Denis, Paris, les terrasses et le Bataclan, bilan 132 morts, plus de 400 victimes et toutes les autres marquées durablement par ce qui est encore difficile à appréhender. Et 10 ans après, on a l'impression que beaucoup de Français ont oublié cette immense manifestation qui avait eu lieu après les attentats de janvier 2015. Et on a vu, depuis le 7 octobre, d'autres manifestations, finalement, qui soutenaient, qui glorifiaient ceux qui ont provoqué directement ou indirectement les attentats de Paris.
Oui, Pierre Grandus, comme je le disais à l'instant, comme je le mentionnais, la mémoire ne se négocie pas. C'est vrai pour Pétain, c'est vrai pour les attentats du 13 novembre 2015 et tous les attentats islamistes qui ont frappé la France au cours des années précédentes. Ce très triste anniversaire du 13 novembre 2015, ces 10 ans, nous ont tous, vraiment chacun en tant que citoyen, en tant qu'être humain, nous ont chacun replongé dans ces moments d'horreur que nous avions vécu. Chacune et chacun se rappelle exactement ce vendredi soir quand nous avons appris l'horreur qui arrivait en plein Paris. Ces 10 ans a été également, bien sûr, le rappel salutaire, parce qu'il faut toujours le rappeler, toujours le dire et le redire, de ce qu'est le terrorisme islamiste. Ce terrorisme islamiste qui tue aveuglément des hommes, des femmes, des enfants, qui tue nos valeurs, qui tue notre société, qui tue ce en quoi nous mobilisons pour la liberté, pour la démocratie, qui tue les valeurs républicaines. C'est cela le terrorisme islamiste. C'est ce terrorisme-là qui a commis l'horreur absolue au Bataclan, sur les terrasses parisiennes, au parc, au Stade de France. Mais évidemment, un petit peu plus tard, ça a été à Nice. Et puis il y a tout ce qui a suivi. C'est ce terrorisme islamiste-là qu'il a fallu dont il a fallu se rappeler pour ces 10 ans, cet anniversaire des 10 ans du 13 novembre 2015. Et vous le mentionniez, Pierre, c'est ce terrorisme islamiste également qui a commis le pogrom du 7 octobre. C'est le même. C'est l'idéologie qui était derrière le 13 novembre 2015 est la même idéologie que celle qui était le 7 octobre 2023. Certes, à un autre endroit du monde, certes, dans un contexte différent, certes, avec une émotion qui a peut-être été différente, quoique, mais en tout cas, c'est la même idéologie, c'est la même haine de nos valeurs, c'est la même haine de l'homme, tout simplement, c'est la même barbarie, c'est la même bestialité. Et vous savez, Pierre Grandus, j'ai regardé un petit peu, comme nos auditeurs probablement aussi, les réactions qui ont suivi et accompagné ce 10e anniversaire, et quelque chose m'a frappé. J'ai bien lu attentivement tous les posts, toutes les réactions des membres de LFI, de la France Insoumise, et notamment de leur gourou, Mélenchon, mais pas que, tous les membres de la France Insoumise. Je n'ai pas trouvé une seule fois, dans toutes les réactions qui ont été publiées, le mot islamiste qui a été prononcé et écrit. Pas une seule fois. On a parlé des attentats, on a parlé du terrorisme. Pas une seule fois le mot islamiste. Pourtant, il faut nommer les choses. Alors, on comprend bien que LFI ne le nomme pas. On le comprend bien. Ça rentre dans leur stratégie électoraliste, leur stratégie pour faire plaisir au quartier, leur stratégie de conquête du pouvoir avec les moyens que l'on connaît. Mais pour ce 10e anniversaire, on aurait au moins pu attendre de la part de ces... Quand même, ce sont des élus de la République qui ont l'écharpe tricolore sur eux, qu'ils souillent. Ils n'ont pas prononcé le mot islamiste une seule fois. D'eux-mêmes, ce sont les mêmes qui disaient que le Hamas n'est pas une organisation terroriste, mais ce sont des résistants. Ce sont les mêmes qui ont dénié ce qui s'est passé le 7 octobre. Ce sont les mêmes qui, après le 7 octobre, ont finalement attaqué les victimes et non les bourreaux. Eh bien, c'est aussi cela, LFI. Et ce 10e anniversaire, ce terrible anniversaire des attentats de 2015, ont aussi montré cela. Et finalement, ce qui en ressort, Pierre, c'est que, évidemment, ça a été un moment de commémoration, un moment d'émotion nationale, d'union nationale, et il faut s'en féliciter. Mais c'est surtout un moment de prise de conscience pour que ce combat contre l'islamisme politique et islamisme militaire, islamisme terroriste que certains refusent de nommer, eh bien ce combat il continue encore et toujours. Chaque jour qui passe, ce combat contre l'islamisme doit continuer. Et également, j'ai envie de dire en même temps, le combat contre les soutiens de cet islamisme politique, contre les porte-paroles de cet islamisme politique, contre les idiots utiles de cet islamisme politique. Et vous voyez très bien à qui je fais allusion. C'est ce combat qui doit continuer. Il y a eu le temps de la commémoration, de l'émotion nationale, et il y a dès le lendemain, comme c'était le cas la veille, le temps du combat, et on est vraiment dans ce temps du combat.
Allez, une bonne nouvelle quand même dans ce panorama assez tragique. Boualem Sansal est libre moins d'une semaine après avoir atterri à Berlin en provenance d'Alger, où il avait été libéré en vertu d'une grâce du président algérien, soldant une détention de près d'une année. L'écrivain franco-algérien est arrivé hier à Paris. Il était accompagné de son épouse et il a aussi a été reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron et ensuite par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.
Oui, quel soulagement, comme vous dites, enfin une bonne nouvelle dans une actualité qui en manque beaucoup. Quel soulagement, quelle joie de revoir Boualem Sansal après cette année de détention dans les geôles du régime algérien. Quel soulagement de le voir, ben, j'ai envie de vous dire déjà, de le voir vivant, de le voir dans un état que l'on pouvait espérer, debout et conscient de ce soulagement d'être libéré. Nous souhaitons évidemment à Boualem Sansal de vivre enfin maintenant une vie apaisée. Boualem Sansal, dans ses premières déclarations, finalement nous a rassuré sur son état de santé, mais également rassuré sur le combat qu'il porte et qu'il va continuer, comme il l'a dit lui-même. Ce n'est pas une année de prison qui va le faire taire. Il va continuer. Nous continuerons ce combat à ses côtés. Le Bnei de France, avec beaucoup d'autres, était mobilisé depuis un an pour la libération de Boualem Sansal. Nous resterons mobilisés à ses côtés pour ces combats qui sont les nôtres, ces combats contre l'islam. On en parlait tout à l'heure à propos du 13 novembre 2015, ces combats contre ce terrorisme islamiste, contre cette terreur, contre cette barbarie, eh bien, nous restons aux côtés de Boualem Sansal. Cela montre également que la mobilisation, vous savez, dans une époque où c'est difficile de mobiliser, où quelquefois les gens peuvent baisser les bras, eh bien là, nous avons un exemple magnifique, formidable, que la mobilisation, finalement, peut être utile, qu'il ne faut jamais lâcher, qu'il ne faut jamais baisser les bras, il ne faut jamais dire « c'est fini, c'est foutu ». Non, ce n'est jamais foutu. Boualem Sansal a été libéré, Boualem Sansal est en France, debout et vivant. Alors bien sûr, il reste un arrière-goût très amer sur l'implication finalement qu'a été celle de la France pour sa libération. Ça fera l'objet peut-être de débats ultérieurs. Et sur ceux qui finalement, rappelons-le, n'avaient pas voté pour sa libération. Il y a des élus en France qui n'ont pas voté pour sa libération lors de résolutions, que ce soit au Parlement européen ou à l'Assemblée nationale. Ce sont les mêmes que ceux qu'on a évoqués tout à l'heure, un petit peu plus tôt. Ce sont ces élus du déshonneur qui n'avaient pas voulu lever la main pour voter pour la libération, une résolution appelant à la libération de Boualem Sansal. Il faudra garder ça en mémoire, il faudra s'en souvenir, il faudra le dire et le redire. Ce combat, comme je l'ai dit, continue, mais je voudrais pour finir rappeler également qu'il reste un Français dans les geôles du régime autoritaire d'Algérie, Christophe Glaise, ce journaliste sportif qui a été condamné et en tout cas qui est dans les prisons algériennes depuis plus de 6 mois. Il y a une audience début décembre. La même mobilisation qui a été la nôtre pour la libération de Boualem Sansal doit continuer, doit se poursuivre pour la libération de Christophe Glaise. Il n'y a aucune raison pour que Christophe Glaise reste emprisonné en Algérie. Ce sont les mêmes raisons, c'est la liberté, la plume, l'écrit, le journalisme, eh bien, la place, sa place n'est pas en prison, n'est pas dans une prison algérienne, sa place est de retenir en France. Christophe Glaise doit être libéré, comme a été libéré Boualem Sansal, et nous ne lâcherons évidemment rien jusqu'à son retour sur le territoire national.
Philippe Meyer, merci d'avoir été avec nous sur Radio Shalom. Je rappelle que vous êtes le président du Bnei Brit France. Merci et bonsoir.
Bonsoir.